Bonjour les frères et sœurs. Je suis très ému ce matin d'être parmi vous et très content en même temps parce que le premier que j'ai rencontré parmi vous, c'est Yves et Sylvie. D'abord Yves, il était célibataire. Moi-même, j'étais célibataire, je connaissais pas encore ma femme. Et ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Et Yves habitait avec moi. Il s'appelle Yves Gaillard, moi je m'appelle Jean-Louis Gaillard. On habitait dans la même maison, dans une mission à Rueil. Et toutes les fois que le facteur venait, il disait, mais Yves Gaillard, mais Jean-Louis Gaillard, c'est votre frère? Oui, je dis, c'est mon frère. Mais c'est pas possible, il me dit, c'est pas ton frère. Mais si, c'est mon frère, dans le Seigneur, c'est toujours l'occasion de témoigner du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, toutes occasions sont bonnes de témoigner pour lui. Et j'ai vécu avec Yves pendant 2 ans, à peu près. Et c'était nos premières armes, j'avais 21 ans, lui est sûrement à peu près cet âge-là aussi. Et puis on a vu la voisine d'en face, c'était Sylvie. Que sa maman interdisait de venir à l'église parce qu'elle voulait pas qu'elle vienne à l'église et elle est venue au Seigneur, elle a rencontré Yves et ils sont mariés et ils ont eu des merveilleux enfants et des petits-enfants comme moi. Et la vie passe tellement vite. Mais c'est tellement important dans notre vie de servir le Seigneur. C'est la chose la plus intéressante. Moi-même, j'étais un homme d'affaires, j'ai mené des entreprises, ça m'a donné que peu de satisfaction. Mais ce qui donne vraiment satisfaction, c'est de connaître le Seigneur et de faire connaître le Seigneur à d'autres. Et particulièrement aux enfants, parce que ça va les conduire pour toute leur vie, ça va les protéger de bien des tourments. Vous êtes d'accord les enfants? Hein? Vous savez, moi aussi, dans l'église, il y a beaucoup d'enfants, et d'ailleurs dimanche prochain, ils m'ont demandé d'aller raconter mes histoires aux enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur simple, ils comprennent facilement les choses. On dit que l'évangile de Jean est composé de 700 mots et qu'un enfant de 7 ans a 700 mots dans son vocabulaire. Donc tout le monde peut le comprendre, les enfants, comme les théologiens. C'est tellement simple. Mais ce qu'il faut, c'est d'entendre avec son cœur, c'est d'ouvrir avec son cœur. Et dans l'église, on a une petite fille qui un jour va dans un supermarché et qui voit un collier en plastique rose avec des petits cœurs, avec des grosses boules. Vous savez, ces colliers en plastique qui viennent de Chine. Elle dit, maman, je veux ce collier. Et sa maman reprend le collier, elle regarde le prix, 5 €. Eh bien, ma fille, si tu es sérieuse, si tu m'aides à la maison, si tu fais des petites choses, je te donnerai ton argent de poche et tu pourras acheter ton collier. Alors la petite fille, elle se met à aider la maman, à aller ramasser même les fruits dans le jardin à côté de la dame, de la vieille dame pour l'aider. Et puis au bout de quelques jours, elle a 5 €. Oh, elle est contente. Elle dit, ça y est, je vais acheter mon collier. Et vous savez, elle achète ce collier en plastique qu'elle met autour de son cou. Et quand elle a ce collier-là, elle se sent une grande dame. Elle va à l'église avec son collier, très fière, elle montre à tout le monde son beau collier. Pour elle, c'est une grande dame, elle porte un collier. Et un jour, un soir, tous les soirs d'ailleurs, son papa lui lisait la Bible. Il lui lisait un passage de la Bible. Et puis un soir, le papa, après l'histoire, lui demande à sa fille, « Est-ce que tu m'aimes, ma fille ?»« Oh oui, papa, je t'aime. »« Mais alors, donne-moi ton collier. »« Oh non, papa. » Pas mon collier. Je peux te donner ma poupée Barbie, je peux te donner mon cheval à bascule, je peux te donner tout ce que j'ai, mais pas mon collier, papa. Parce que son collier, elle l'aimait tellement. Alors le papa lui dit, bah, écoute, c'est pas grave, ma fille. Elle lui fait un petit bisou. Le papa lui fait un petit bisou, comme tous les soirs, et puis elle s'endort. Et puis, pendant plusieurs soirs, le papa continue à lire son histoire. Et puis encore un soir, il demande, est-ce que tu m'aimes, ma fille? Oh oui, papa. Oh oui, papa, je t'aime. Alors donne-moi mon collier, donne-moi ton collier. Non, pas mon collier, papa. Là, papa, tu peux avoir ma poupée, celle que j'ai eue à mon anniversaire, mais pas mon collier. Alors le papa, il dit, pas grave, ma fille, pas grave. Et puis 2 jours après, il arrive dans la chambre et il voit la petite fille assise à l'indienne, au bout de son lit, avec une petite larme là qui coule, et puis sa bouche, son visage qui tremble. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, ma fille, qu'est-ce que tu as? Papa, elle dit, papa, tiens, papa. Elle tend la main et elle offre son collier à son papa. Au même instant, le papa sort de sa poche un vrai collier en or qu'il donne avec à sa fille. Il l'avait depuis le début, mais il fallait que l'enfant lâche son collier en plastique pour recevoir le vrai collier. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil avec nous. Il y a des choses qu'on tient des choses charnelles, des relations avec des gens qui nous apportent rien, un faux évangile, un évangile qui satisfait notre chair mais qui touche pas notre cœur. Et le Seigneur a dans sa poche le vrai évangile qu'il veut nous confier, mais tant qu'on lâche pas ce faux évangile, il peut rien nous donner. Mais il faut savoir que si Dieu nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il a toujours quelque chose de meilleur à nous donner. Alors on ne voit pas ce qu'il a dans sa main. Et il y a un acte de foi à faire, il y a un acte d'obéissance, mais quand on le fait, on est tellement béni. Et je voudrais vraiment vous encourager, s'il y a des choses artificielles dans votre vie qui ne sont pas la gloire du Seigneur, c'est comme ce collier en plastique, il faut le lâcher et dire: Seigneur, moi je veux ton vrai collier, ce vrai évangile qui vient changer ma vie, qui prend ma vie mais qui me permet de te servir dans l'esprit, de servir dans l'obéissance, de servir non loin du monde mais dans ton plan. Et voyez, cette petite fille après, elle était tellement heureuse. Elle avait eu le meilleur. Et le Seigneur a pour nous le meilleur, les meilleures choses qu'il veut nous donner. C'est pourquoi il faut toujours apprendre les choses du Seigneur. Ça va? Voilà. Une autre histoire, un jour dans le train, il y avait un monsieur qui avait l'air d'un paysan bien portant. Et ce monsieur était en train de lire sa Bible. Alors, le train cahoté, comme toujours, c'était à peu près il y a 100 ans, entre Besançon et Dijon. Et le monsieur lisait sa Bible et rentre à ce moment-là des étudiants. Oh, qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Regardez, il lit sa Bible et il commence à se moquer de lui. Et ils disent: monsieur, vous savez, pourquoi vous lisez votre Bible? Ça sert à rien. À votre place, je la jetterai par la fenêtre. Parce qu'aujourd'hui, en 1890, la science explique tout. On a la réponse à tout, il n'y a plus besoin de la Bible. Alors le vieux monsieur se tourne avec les airs très tristes et dit: monsieur, mais qu'est-ce que la science peut m'aider concernant la paix, la joie dans mon cœur, l'œuvre que Dieu veut faire dans mon cœur? Est-ce que la science peut m'aider? Alors les hommes disent: oui, moi je vais vous envoyer des livres. Donnez-moi votre carte de visite. Alors le monsieur sort de sa carte de visite de sa poche et il donne aux étudiants. Et quand les étudiants regardent la carte de visite, c'était marqué Louis Pasteur, directeur de l'Institut scientifique Paris. Voilà. Louis Pasteur, c'était un homme qui aimait le Seigneur, qui aimait la Bible, qui était un chercheur français. Il a trouvé les vaccins contre la rage, vous connaissez ça. Hein, c'était ces animaux, ces chiens ou ces renards qui mordaient les gens. Et un jour, il y a un enfant qui s'appelait Mesger et qui était atteint de la rage. Et Louis Pasteur a trouvé le remède pour le guérir. Si bien qu'en France, on l'a appelé l'homme qui fait des miracles. L'homme qui fait des miracles, Louis Pasteur. Et dans le Jura, près de Dole, il y avait un papa qui avait un fils. Et ce fils a été mordu par un renard qui lui aussi avait la rage. Et quand on était mordu par un renard avec la rage, on était sûr de mourir. Et donc pour lui, son fils allait mourir. Il n'avait pas de solution. Il avait entendu parler qu'à Paris, il y avait un homme qui faisait des miracles. Alors il a pris une enveloppe, une lettre, et il a marqué « L'homme qui fait des miracles, Paris ». Mais croyez-moi, c'est arrivé à Louis Pasteur. Parce qu'en France, en 1895, on savait qui était l'homme qui faisait des miracles. C'était Louis Pasteur. Et Louis Pasteur a pu intervenir et envoyer un petit vaccin pour guérir cet enfant. Mais l'homme qui fait des miracles pour nous, c'est le Seigneur Jésus. On a l'adresse, on peut lui demander. Il veut intervenir dans notre vie. Il est toujours prêt. Et vous voyez, un jour, j'entends une dame à la radio qui s'appelle Mireille Darc, il y a à peu près 2 mois. Elle passe à la télévision un jour et puis elle raconte sa vie. Elle a eu 3 cancers. Elle raconte qu'elle était désespérée, découragée, qu'elle espérait le soutien des psychiatres, des psychologues, mais que ça n'avait rien apporté. Elle était triste. Et moi, je l'entends, mais je me dis, mais je vais écrire à cette femme. Je veux lui écrire. Mais je connais pas son adresse, je sais pas où elle habite, je sais pas d'où. Mais je dis, Seigneur, si tu as donné à cet homme dont son enfant allait mourir de la rage, l'idée pour écrire à Louis Pasteur alors qu'il ne connaissait pas son nom, tu es capable de me donner l'idée à moi pour que je puisse écrire à cette dame et lui envoyer un mot de témoignage, un mot d'encouragement de ta part. Alors je suis devant mon ordinateur et j'écris mireilledarc@hotmail.com. J'envoie, hop, ça ne marche pas. Je continue, micheldarc@gmail.com. Je continue, hop, une réponse. Merci, on a reçu votre réponse et on vous remercie. Le Seigneur m'avait donné, à travers une histoire, l'occasion de mettre ma foi en pratique et de pouvoir écrire à cette femme pour lui donner un témoignage du Seigneur. Et tous les 15 jours, je lui envoie une nouvelle histoire et ça permet de faire une œuvre, mes frères et sœurs. Et les petites histoires ont une œuvre qu'elles font dans notre cœur. Et c'est pourquoi Jésus parlait toujours avec les petites histoires, pour qu'on comprenne. Alors je sais que ça fait pas très joli de dire que je suis un pasteur qui raconte des petites histoires. Mais heureusement, je raconte aussi la parole du Seigneur. Et cette parole du Seigneur, elle est couverte d'histoires qui nous arrivent aux uns et aux autres. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Par exemple, écoutez ça les enfants. Un jour, nous habitions, après avoir habité Orgeval, nous avons habité Sèvres. Et là où nous habitions, il y avait un sens interdit pour rentrer à la maison. Alors, il suffisait de faire 10 mètres, on rentrait dans le sens interdit, puis on arrivait là, dans notre maison. Enfin, dans notre immeuble, c'était un immeuble à l'époque. Donc, on fait le tour, comme ça, il fallait faire un tour au moins d'un kilomètre. Puis comme moi, je rentre fatigué le soir, je me dis, je vais passer par le sens interdit, et je rentre. Mais ce jour-là, mon fils de 7 ans était au balcon de l'appartement, au troisième étage, et il voit son père passer par le sens interdit. Et j'avais toujours appris à mon fils de ne pas faire les mauvaises choses, de ce qui était interdit, tout ça. Alors mon fils me voit et dit « Papa, papa, t'as péché, demande pardon au Seigneur !» Alors moi je suis avec ma moto, je mets le moteur plus fort, je dis « Mais non, non, plus personne ne va entendre !» Et il criait de plus en plus. Tous les gens du balcon sont sortis et il a fait la prédication à son père, hein, au pasteur. Il a prêché à son père qu'il fallait pas passer par les choses interdites, qu'il fallait pas. Je suis rentré chez moi tout humble, tout petit, j'étais lui demander pardon à mon fils. Mais vous voyez, la loi qu'on donne à nos enfants, elle se retourne souvent contre nous. Et nos enfants nous connaissent bien. Dernièrement, je prends ma moto, et puis j'ai une conviction. Il faut que je prenne mon avertisseur de radar. Alors quand je raconte ça en Afrique, personne ne connaît les avertisseurs de radar, mais nous en France, on sait exactement ce que c'est. C'est-à-dire que je prends ma moto, et puis je me dis, ben pour être tranquille, je vais mettre mon avertisseur. Alors j'arrive et je fais quelques kilomètres. Là, il y a un contrôle de vitesse. Toutes les voitures sont arrêtées, les motos les premières. Tout le monde est flashé, tout le monde est pris, sauf moi. Quand je suis passé devant, j'entends des cling, cling, cling. J'ai ralenti, je suis passé tout comme ça. Et je rentre très fier à la maison et je renvoie mon fils, qui a 28 ans. Je dis, tu sais, le Seigneur m'a gardé ce matin. Parce qu'il m'avait mis à cœur de prendre mon avertisseur de radar, et il y a eu un contrôle, et je me suis pas fait prendre. Et mon fils me regarde et me dit, papa, le Seigneur t'a jamais montré qu'il fallait respecter les vitesses? Ah, bel pasteur! Ah, bel pasteur! Vous voyez, des choses élémentaires, des fois, qu'on oublie. On est tellement spirituel qu'on oublie les choses simples. Et les choses simples, c'est les choses que nos enfants nous rappellent, c'est les choses que le Seigneur veut nous dire. J'ai aussi une petite histoire d'un garçon. Il a 7 ans. Sa maman arrive du travail. Elle est fatiguée. Elle a travaillé très dur. Et quand au moment où elle ouvre la porte, le petit garçon ouvre la porte à sa maman et dit « Maman, maman, dis-moi combien tu gagnes pour une heure de travail ?»« Oh, mais ça ne te regarde pas, mon fils. Ça, c'est pour les grands, ça. T'as pas besoin de savoir. »« Si, si, maman, je voudrais savoir. » Alors, la maman est très en colère après son fils. Il dit, mais non, ça ne te regarde pas, je ne te dirai pas. Mais si, maman, s'il te plaît. Alors, la maman va quelque temps après, elle se dit, mais peut-être que mon fils a besoin de savoir vraiment. Je vais aller le voir. Elle va le voir dans sa chambre et lui dit, mais tu sais, je gagne 15 euros par travail. Mais tu sais, c'est pas pour que tu me demandes de l'argent pour acheter tes jouets inutiles, là. Tu sais, tous tes petits jouets que tu t'achètes tout le temps qui viennent de Chine et qui sont pas de bonne qualité, et puis après c'est vite fichu. Non, non, je gagne 15 euros et je travaille dur, tu sais, pour gagner ma vie, pour que tu aies ce qu'il faut à manger. Oh, petit garçon, il dit encore à maman, maman, donne-moi 15 euros, s'il te plaît. Oh non, 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 pourquoi tu veux encore 15 euros? Tu veux encore t'acheter un jouet ridicule? Alors la maman se fâche. Elle dit, allez, va dans ta chambre. Le petit garçon va dans sa chambre. Puis à nouveau encore, la maman est travaillée. Elle se dit, mais alors, pourquoi il me demande 15 euros? D'habitude, il ne me demande jamais d'argent. C'est qu'il en a peut-être réellement besoin. Alors elle va dans la chambre, elle le voit. Et elle voit qu'il est en train de casser sa tirelire. Et il est en train de compter ses pièces. Mais sa maman lui dit, mais tu en as de l'argent? Oui, mais maman, j'ai pas assez. Donne-moi 15 euros, s'il te plaît. Alors la maman, elle lui dit, mais pourquoi? Mais tu vois, maman, j'ai calculé mes pièces là, j'ai 15 euros. Avec les 15 euros que tu vas me donner, je peux te payer 2 heures de ton temps pour que tu puisses t'asseoir avec moi et qu'on puisse parler ensemble. » Frères et sœurs, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir parce que nos enfants souhaitent d'avoir un temps de qualité avec nous. Moi, je suis marié depuis 41 ans, mes enfants ont jusqu'à 38 ans, ils sont tous partis, ça va très vite. Et si on n'investit pas dans nos enfants, c'est le monde qui va investir. C'est l'école, c'est les mauvaises influences, c'est les gens du monde. On doit investir dans nos enfants, on doit donner ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire un cœur ouvert pour entendre leur situation, pour comprendre leur cœur, pour prier avec eux. Et nous les enfants, nous les parents chrétiens, c'est une grande responsabilité. Je suis pasteur, mais ça commence déjà dans ma maison. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés des sacrificateurs, mais ça commence dans notre maison, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, être à leur écoute, vraiment s'attendre au Seigneur pour avoir une parole avec eux. Vous savez, c'est pas une question de quantité de temps. Parce que on était pasteurs, ma femme et moi, et on sert toujours le Seigneur. Notre maison était ouverte à beaucoup de monde. Et c'est bizarre, on avait toujours le temps pour les frères et sœurs de l'église, mais on n'avait jamais le temps pour nos enfants. Et un jour, notre fille rentre de l'école, elle veut parler à sa maman, elle lui dit « Maman, maman, je veux te parler. » « Oui, oui, attends 5 minutes. Allez, vas-y, explique, dis-moi. » Et la petite fille, elle dit « Mais maman, tu m'écoutes pas, hein ?» Et ma femme a dû se repentir devant ma petite fille pour dire « Oui, ma fille, tu as raison, je veux te donner du temps, je veux t'écouter. » Et comme ça, ma femme a gagné le cœur de ma fille. Si on n'écoute pas nos enfants, je vous dis, ils auront écouté leurs amis dans le monde. Ils auront écouté des choses mauvaises pour eux. Et aujourd'hui, ma fille a 30 ans, et on est resté... Combien? Ouais, comme ça change tous les ans et que je suis pas trop... Et ma fille donc est toujours la meilleure amie, elle a comme meilleure amie sa maman, son papa, et c'est vraiment une grande grâce. Parce que j'ai vu tellement de ministères, avoir des ministères glorieux, mais avoir des catastrophes dans leur famille. Dieu nous appelle à prendre soin de nos enfants, à leur donner ce qu'il y a de mieux. Et vous savez, des fois c'est pas facile. Nous avons eu notre fils aîné, qui a 39 ans aujourd'hui, quand il a eu 18 ans, il m'a dit « Papa, maintenant je veux plus aller à l'église, je veux mener ma vie ». Et il est parti dans la drogue. Nous habitons Nanterre, une plateforme, beaucoup de drogue, tout ça. Il a commencé à faire du trafic, à rentrer dans des choses folles. Et tous les soirs, je le voyais arriver vers minuit, 1 heure du matin. On l'entendait, moi et ma femme, derrière la vitre, derrière la maison, en le voyant arriver, mal fichu. Et puis on allait se coucher. Et puis, plusieurs fois, on est descendu dans la maison, il y avait des affaires volées. Oh, je dis, mais c'est pas possible. Le fils du pasteur qui vole des choses, le fils du pasteur qui est comme un voyou. Mais le Seigneur m'a dit, si tu mets ton fils dehors, tu perdras ton fils. Ça aurait été tellement plus facile de le mettre dehors de la maison et de dire, ah ben non, moi je suis pasteur, je veux pas d'histoire comme ça chez moi, je ne veux plus le voir. Ça aurait été tellement facile, mais j'aurais perdu mon fils. Et le Seigneur s'est servi de cette situation pour me briser, pour faire une œuvre dans mon cœur. Je me disais, mais l'église, jamais ils vont apprendre, quand ils vont apprendre que mon fils est drogué, jamais ils vont accepter, ils vont m'en vouloir. Mais non, j'ai dit à l'église, tous les frères et sœurs, et les frères et sœurs ont dit, on va prier pour toi, on va prier avec toi, on va s'attendre au Seigneur. Et mon fils, donc, au bout de 4 ans, après avoir fait du trafic, avoir fait des choses terribles, des affaires volées dans la cave, tout ça qui était là, ça fait un brisement dans mon cœur. On ne pouvait que prier pour lui, ma femme et moi. On s'attendait au Seigneur. Puis un jour, au bout de 4 ans, on a appris qu'il y avait un camp de jeunes au Zimbabwe. Nous travaillons avec des églises dans l'océan Indien, l'île Maurice, Madagascar, Rodrigue, La Réunion. On travaille aussi en Afrique, Afrique du Sud, Zimbabwe. Et là, on apprend qu'il y a un camp de jeunes. Alors, on propose à notre fils, est-ce que tu veux pas aller au camp de jeunes là-bas? Et lui, se disent, oh, je vais aller voir ce qu'il fume là-bas comme drogue. Et nous, ma femme lui dit, mais prends ta Bible. Non, non, pas la peine, prends ta Bible. Il a quand même pris sa Bible. Il est arrivé là dans ce camp de jeunes, il y avait 300 jeunes. Le premier jour, il est resté à l'extérieur. Le deuxième, il est rentré dans la salle où il y avait la prédication le soir. Et le troisième, il était là, au pied du prédicateur, pour demander pardon au Seigneur, pour s'humilier. Il nous téléphonait depuis le Zimbabwe à Paris. « Papa, j'ai volé. Papa, j'ai caché de la drogue. Papa, j'ai caché de la drogue dans la maison. Papa, laisse mon téléphone, jette-le, parce que il y a des commandes, il y a des gens, tout mon trafic est dessus. Papa, jette tout ça. Papa, je te demande pardon, maman, je te demande pardon. » Et il pleurait, et ça a duré 2 jours. Au bout de 2e jour, on a dit, on va aller le retrouver. On est partis, nous deux, au Zimbabwe, et là, notre fils nous a confessé tout ce qu'il avait fait, tout ce qui avait été, ces choses terribles dans lesquelles il était esclave. Et puis il m'a dit, « Papa, maman, je peux plus retourner à Nanterre. Si je retourne là-bas, je vais me faire tuer par mes amis là-bas. Faites quelque chose pour moi. » Et là, il y avait un pasteur de l'île Maurice qui a dit, « Ben écoutez, je vais le prendre chez moi. Il va venir chez moi vivre à l'île Maurice. Et mon fils sert le Seigneur maintenant. Il s'occupe des drogués, il s'occupe des gens en difficulté. Il est comme un pasteur là-bas. Et il sert le Seigneur tout son cœur. Et là, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. » Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et le plus gros bénéfice de ça, c'est que ça a brisé mon cœur et que ça a fait de moi un homme fini qui reconnaît qu'il n'y a que la grâce de Dieu pour le servir et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut m'aider à aider mes frères et sœurs dans l'Église. Et que maintenant, chacun ne se sente pas gêné quand ils passent des situations comme ça avec leur fils ou avec leur fille, mais qu'ils savent que le pasteur est passé par là et ça les aide eux-mêmes à venir demander de l'aide sans sentir de condamnation, mais qu'on puisse prier avec eux et s'attendre à la grâce et au miracle du Seigneur. Et le Seigneur est fidèle pour délivrer tous ceux qui sont esclaves de ces choses et que le Seigneur veut œuvrer dans les cœurs pour que de plus en plus l'Église soit le lieu de la délivrance, le lieu où on est transformé, changé par le Seigneur, où on veut vraiment s'attendre à sa grâce. Donc, vous savez, nous ne sommes que des graciers, et tous les jours, quand je me lève, je remercie le Seigneur pour la grâce que j'ai de le servir, pour la grâce de voir mes enfants le servir, mes petits-enfants, et je m'attends encore à des miracles du Seigneur pour l'Église, pour nos vies, parce que c'est pas fini. On a besoin de grandir et de continuer à grandir avec lui. Voilà. Encore une histoire pour les enfants, là, hein? Allez. Écoutez ça, les enfants. Un jour, je rentrais d'une prédication un soir, on avait été en province, c'était très loin, on arrive à 2h du matin. Et à cette époque, dans notre maison, il y avait une menuiserie artisanale, avec des planches de coffrage, parce que ça servait pour travailler pour l'entreprise, pour notre entreprise. Donc, un soir, j'arrive à 2h du matin, et qu'est-ce que je vois? Des gens en train de voler mes planches. Ils avaient une voiture et une remorque. Et ils étaient en train de charger la remorque avec les planches. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Moi, je parle sur le pardon. Et qu'est-ce que je vais leur dire à eux? Est-ce que je vais pouvoir manifester l'amour du pardon pour ces hommes-là? Parce que je me rappelais, un jour, à Nanterre, dans notre maison, on avait l'église là. J'arrive une fois, il y avait un voleur dans les bureaux. Et à cette époque-là, j'avais un téléphone portable, vous savez, grand avec une antenne là. Et je vois le voleur et je tape mon téléphone sur la tête. Mon téléphone explosé et le voleur parti. Et je me dis, mais c'est ça le pasteur? Mais qu'est-ce qu'il est la réaction du pasteur? Et quand j'ai vu ces voleurs de plan, je me suis dit, non, Seigneur, je vais pas recommencer comme la dernière fois. Alors vous savez ce qu'il m'a donné comme idée, le Seigneur? J'ai arrêté dans ma voiture, j'ai été les voir, dit, vous avez besoin qu'on vous aide? Moi, je suis prêt à vous aider. Allez, prenez cette planche-là. Regardez, celle-là, elle est super. Et je les ai chargées. J'ai chargé la remorque avec eux. Et au bout d'un moment, on avait chaud. Tout le monde avait chaud parce que c'était un gros travail. Et je leur ai dit, mais vous voulez pas qu'on aille boire un petit peu de cidre, là? Je sais où il se tient, le cidre, dans la maison. Je sais où on le cache. Oh, bah alors les gars m'ont dit, mais c'est incroyable, toi. Hein. Allez, vas-y. Je suis allé, j'étais chercher des bouteilles de cidre avec des verres et je suis revenu. Mais il me dit, mais t'es incroyable, toi. Tu connais même où est le cidre dans la maison, là? Mais c'est incroyable, ça. Alors je leur ai dit, mais la maison, c'est ma maison. C'est là où j'habite. Là, c'est mes planches. Mais vous savez, j'étais un voleur comme vous quand j'étais jeune. J'ai volé, moi aussi, des planches. Moi aussi, j'ai fait des bêtises comme vous. Mais vous savez pas quoi? Jésus m'a pardonné. Je suis né de nouveau. J'ai changé de vie. Maintenant, je marche avec le Seigneur. Et vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de me voler mes planches, mais sachez que le Seigneur vous aime, et je vais vous dire qu'il vous aime, qu'il a un plan pour que vous deveniez libre et que vous soyez libérés. Ils sont mis à trembler, ils sont partis, en emmenant les planches, bien sûr, parce que j'aurais dit prenez. Mais 19 ans après, il y en a un qui est revenu. Il me dit, tous les jours, j'ai pensé à ce que vous avez dit. Tous les jours, je me suis rappelé quand on a volé les planches, est-ce que vous m'avez dit. Et ça a travaillé mon cœur. Et depuis ce jour-là, Mais ça, je ne cesse que de ressentir l'appel de Dieu dans ma vie. Et j'ai décidé de venir vous demander pardon. J'ai donné mon cœur au Seigneur et maintenant je viens vous demander pardon. Vous savez, il ne faut pas s'attendre à ce quand on sème, on récolte tout de suite. Il faut du temps. Il faut que la terre, la graine germe, qu'il y ait la pluie, qu'il y ait la pluie de l'arrière-saison, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que le soleil, pour que cette graine puisse grandir. Mais nous, c'est pareil. On est appelé à être des semeurs de graines de foi afin que cette graine puisse germer et porter du fruit pour le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, il travaille dans les cœurs. Quand j'étais à Orgeval, on était avec Yves Cornas, pour ceux qui ont connu, j'étais voir monsieur le curé. Et j'ai dit à monsieur le curé, vous êtes converti, vous, monsieur le curé? Vous avez donné votre cœur au Seigneur? Vous êtes né de nouveau? Et monsieur le curé m'a dit, mais bien sûr, moi, tu sais, moi, ma mère tenait un bar. Et moi, j'ai décidé de servir Dieu. Alors, je suis parti au séminaire. Non, mais est-ce que vous avez rencontré Jésus? Est-ce que vous avez demandé pardon pour vos péchés? Oh, non, mais bien sûr, allez, va-t'en, je veux plus te voir. Et puis, 15 ans après, quelqu'un l'a vu sur son lit de mort. Il a dit, allez voir Jean-Louis Gaillard, dites-lui que le jour où il m'a demandé si j'étais né de nouveau, tous les jours le Seigneur m'a rappelé cette question et je suis né de nouveau il y a quelques années et maintenant j'appartiens au Seigneur. Vous savez, ce qu'on sème, ça portera des fruits. Il faut s'attendre au Seigneur. Nous sommes appelés à être des semeurs et nous attendre à lui et on verra vraiment sa grâce. Alors, je vais pas raconter 375 histoires. En réalité, j'en ai beaucoup, j'en ai des milliers. Vous savez, quand il y a des gens qui collectionnent des papillons, moi, depuis que j'ai l'âge de 20 ans, je collectionne les histoires. Quand je vois une petite histoire, hop, je la mets de côté, je la mets dans mon Word, et j'ai à peu près 2 à 3 000 histoires. Donc, aujourd'hui, j'en ai raconté 750 pour les radios. Donc, ça fait 2 ans de programme sur les radios, parce que j'ai 125 radios qui racontent mes histoires tous les jours. Des radios au Canada, en Afrique, en France, un peu partout, des radios chrétiennes. Et maintenant, je me suis mis aux vidéos, parce qu'on m'a demandé, pourquoi pas mettre des vidéos? Et j'ai vu votre illustrateur, le frère, là, qui fait les dessins. Ben, j'utilise des gens comme ça, des artistes, qui font des tableaux, qui peignent pour moi l'histoire que je vais raconter. Et alors, je mets ça en YouTube, ou en Top Chrétien, Enseigne-moi, Dieu TV, et plein d'autres télévisions en Afrique, 10 chaînes de télévision à peu près, où on raconte mes histoires. Et j'ai jusqu'à 480 000 visites. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de déposer une graine de foi, un encouragement pour les uns et pour les autres. Et je vous invite à aller regarder sur Internet. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, tes histoires c'est bien, mais moi je préférerais les avoir dans mon petit coin aux toilettes là-bas. Tu pourrais pas faire un bouquin? Et puis, alors, j'avais jamais le temps de faire un livre. Puis un jour, je suis parti avec ma moto, je sortais d'un hôpital pour avoir fait un contrôle. Le médecin m'a dit, ça y est, vous êtes en pleine forme. Et en quittant le périphérique, je suis arrivé à 80 à l'heure au niveau d'un trottoir avec ma moto à 3 roues. Ma moto est montée comme ça dans le ciel, là. Et j'ai dit, Seigneur, là, ça y est, j'arrive. Hein, Seigneur, là, je sais pas ce qui se passe, j'étais à 80 à l'heure. Et tout d'un coup, la moto est tombée par terre, je suis tombé sur la moto et j'ai glissé sur 200 mètres. Et quand je me suis relevé, il dit, oh, merci Seigneur, je suis encore en vie. Tiens, je saignais, j'avais pris le rétroviseur dans la figure, j'avais la lèvre complètement ouverte, oh, le pied, ouh là là, ça j'ai mal au pied. Bon, ça fait rien, je suis repris sur la moto, quelqu'un est venu m'aider pour la relever, et je suis rentré à la maison. Puis ma femme me voit arriver comme ça, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Non, c'est rien. Puis le lendemain, le pied était tellement énorme qu'il a fallu aller à l'hôpital. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai emmené à l'hôpital. Mais à l'hôpital, comment vous sortez de l'hôpital où vous laissez votre voiture? Explique à la dame, là, j'ai le pied cassé, là, je peux pas quoi faire, je peux pas y aller. Bon, elle m'a laissé rentrer dans l'hôpital et puis je suis descendu de ma voiture. Tout de suite, la radio, pied cassé. Bon, 3 mois d'arrêt. Et c'était 3 mois qui a permis que j'écrive mes livres. Et s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais jamais eu le temps. Alors j'ai écrit 5 livres, j'en suis au 6e d'ailleurs, où j'ai écrit ces petites histoires-là pour que les gens puissent les avoir chez eux, puissent les méditer. Mais je dois vous dire, il faut pas lire le bouquin de A à Z. Il faut vous lire une petite histoire par jour, 2 petites histoires. Ça parle à votre cœur. Et vous laissez méditer, travailler, et ça vous aide à grandir avec le Seigneur. Donc, on vous présentera les livres tout à l'heure. Allez, aujourd'hui je voudrais partager la parole de Dieu parce que je suis quand même pasteur et pour moi, l'exemple, le modèle, les meilleures choses, c'est dans la parole du Seigneur. Voilà, allez, Matthieu 16, verset 13. Je prends une mauvaise... Merci. Je veux aussi remercier le pasteur que je connais depuis aussi très longtemps, en 76. Hein, et c'est incroyable, mais merveilleux quand on voit des frères et sœurs qui continuent à servir le Seigneur d'année en année depuis si longtemps. Marie-France Vacher, on a connu Orgeval, Yves Cornaz, enfin toutes ces équipes, c'est merveilleux. Et on sert toujours le Seigneur, on est toujours en feu pour le servir. Vous savez, quand je suis devenu chrétien, mes parents m'ont dit « Avant, tu étais marcéliniste ». Ah oui, j'étais Max Rangel, c'était mes héros, c'était tout ça. Et puis le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été voir mes parents, j'ai dit non, c'est plus Max Rangel, c'est Jésus. Et mes parents m'ont dit dans 3 mois, ce sera fini. Là, ça fait 43 ans que ça dure. 43 ans. Et j'ai dit à mes parents, ça y est. Et eux commencent à ouvrir leur cœur. Quelle grâce quand on peut ouvrir son cœur et se donner au Seigneur. Allez, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, écoutez ça, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Alors les uns répondent, « Mais tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus va leur poser une question, écoutez ça les enfants, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et nous, qui dites-vous que je suis ? Jésus nous pose la question, « Qui est Jésus pour nous ?» Alors, Simon-Pierre répondit, Simon, que c'est Simon, hein, c'est Pierre, l'homme plein de zèle, plein de force et tout ça, il vient voir Jésus, lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, quelle réponse extraordinaire. Tout le monde savait que Jésus faisait des miracles, faisait des grandes choses et tout ça, mais très peu savaient exactement qui était Jésus. Et Pierre, lui, il va expliquer, tu es le Christ, le Fils du Vous savez, quand on parle aujourd'hui, dernièrement, il y a des gens qui sont venus au bureau de l'église à Chaville pour installer la fibre optique. Ces personnes, c'était des personnes d'Afrique du Nord qui avaient une religion tout à fait différente et qui m'ont dit « Mais tu es pasteur, mais c'est quoi être pasteur ?»« Mais c'est d'annoncer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. »« Non, non, mais Dieu n'a pas de fils, c'est pas possible. » Alors j'ai dit « Écoute, écoute, c'est pas un fils comme nous dans la chair. » Hein, c'est le Fils de Dieu, c'est une créature égale à Dieu, et c'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, Jésus, le Fils de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même, quand son Fils s'est présenté à Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre, et a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et pour eux, c'était, ben, tout d'un coup, ils comprenaient, ou du moins, ils étaient bouleversés un petit peu dans leur compréhension. Et nous, on doit avoir cette révélation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est Dieu a un Fils qui nous a fait connaître. C'est par lui qu'on le connaît. C'est à travers son sacrifice qu'on a cette nouvelle. Et c'est par lui qu'on doit continuer à marcher. Je continuerai après sur ce thème. Alors, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui a été prédit, prévu pour le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël attendait un Messie qui serait triomphant. C'est Ésaïe 11, qui allait renverser tous les Romains, qui allait leur donner la liberté politique, religieuse et tout ça. Ils attendaient ce genre de Messie qui doit venir, mais à la fin des temps. Et puis Ésaïe 53, qui est le Messie souffrant, qui est grâce à lui qu'on est là. Si on n'avait pas eu le Messie Yeshua qui était venu pour donner sa vie, on ne serait pas sauvé. On serait toujours dans nos péchés. Et vous savez, d'être dans ces péchés, c'est terrible. Vous savez, moi j'ai étudié l'œnologie. J'étais œnologue, c'est-à-dire analyse des vins, dégustation des vins. Ça fait bien pour un pasteur. Hein. Mais j'ai trouvé que le vin nouveau est beaucoup meilleur. Mais pour vous dire qu'avant, quand je connaissais pas le Seigneur, j'étais esclave de ce champagne, parce que c'était en champagne, et je buvais 2,5 bouteilles de champagne tous les jours, à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et j'étais esclave. Tous les jours, je disais, demain j'arrête. Mais non, c'était demain, mais toujours demain, toujours demain. Et c'est ça le pouvoir du péché, c'est que vous êtes convaincu que c'est mauvais, mais vous ne pouvez pas vous en libérer. Si Jésus est venu, c'était pour nous libérer du péché. Autrement, on serait esclave du péché. Je serais toujours alcoolique, je serais fini, je pouvais pas m'en sortir. Mais Jésus est intervenu. Et du jour où j'ai accepté le Seigneur, c'était le 15 mai 1971 à 15h, ma vie a changé complètement. Vous savez même, j'ai fait une allergie au vin. C'est-à-dire, dès que je buvais du vin, je devenais tout rouge. Et ma grand-mère me disait, mais qu'est-ce que tu as ? Va voir le médecin. Non, non, j'ai dit, non, non, mais c'est le Seigneur, ça. Il m'a libéré totalement. et j'ai quitté ce milieu-là pour venir à Paris et être avec l'Église et pour pouvoir bénéficier de l'Évangile. Avant, j'habitais Reims. Et vous savez où je vivais? Mes parents étaient une famille bourgeoise, normale, enfin, à Reims. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été habité à l'Armée du Salut. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'Armée du Salut, j'avais entendu dire qu'ils prêchaient l'Évangile. Donc j'ai dit à mes parents, ça va, je ne vais plus habiter à la maison, je vais habiter à l'Armée du Salut. Alors là, ils m'ont dit, mais il est fou. Il va habiter avec tous les clochards, tous les clodos, là. J'ai honte, je ne veux plus le voir. Et tout ça, ils étaient finis. Mais vous savez, là-bas, il y avait un homme, un homme qui s'appelait Jacques et qui avait un cœur, c'était un ancien alcoolique qui était fini, qui avait vraiment été défoncé par l'alcool, mais un jour il a rencontré Jésus. Et quand il était tellement changé qu'il avait un but dans sa vie, c'est de devenir un modèle pour les autres. Et toutes les fois qu'il y a un alcoolique qui venait, il s'occupait de lui. S'il avait vomi, il le lavait. Il prenait soin de lui. Les alcooliques arrivaient le soir, les clochards et tout ça, complètement ivres. Il les déshabillait, prenait soin d'eux. Et puis, une fois par semaine, on avait une réunion. Vous savez, dans l'Armée du Salut, il y a un banc pour les repentants. Et là, le prédicateur prêchait à des hommes qui dormaient, qui avaient trop bu. Et tout d'un coup, il y a un homme qui se lève. Un homme connu comme un alcoolique. Et il vient sur le banc et dit, Seigneur, je veux être comme Patrick. Alors le pasteur, il dit, mais non, attends, on dit, c'est pas comme Patrick qu'il faut être, c'est comme Jésus. Hein. Mais lui, il avait tellement vu en Patrick un modèle, un homme transformé, qu'il dit, moi je veux faire comme lui. Moi je veux donner ma vie au Seigneur. Et le pasteur lui a expliqué comment donner sa vie au Seigneur et lui a été transformé aussi. Mes frères et sœurs, qu'on puisse être des lumières pour les gens qui sont autour de nous. Les gens sont dans les ténèbres, ils cherchent la lumière. Nous avons cette lumière. Portons cette lumière et faisons connaître le Seigneur. Amen. Allez, on continue. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ah, il n'y a pas de fierté d'être avec le Seigneur. La révélation que l'on a, celle vient du Seigneur. Il dit, c'est formidable ce que tu as eu, Pierre, comme révélation que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ça vient pas de toi, ça vient pas de ta chair, ça vient pas de ta connaissance, ou ça vient pas de tes explications, ça vient de mon Père qui est dans les cieux, qui t'a donné ces choses. C'est pourquoi l'Évangile, c'est une révélation. On a besoin de recevoir la révélation. Vous savez, à la Sorbonne, on étudie la Bible, mais ils comprennent absolument rien. Ça touche que la tête. Seigneur, viens pour toucher notre cœur. L'Évangile doit toucher notre cœur. Quand on est dans des situations impossibles et quand on se met à prier de tout son cœur comme un enfant, Dieu répond, parce qu'il voit notre cœur. Mon pasteur me disait toujours, oh, j'ai fait ma théologie, mon doctorat de théologie, j'ai perdu 5 ans pour faire mon doctorat de théologie, et après il m'a fallu 10 ans pour l'oublier. Résultat, j'ai perdu 15 ans d'années. Bon. Je ne dis pas qu'il faut pas faire des études, je ne dis pas tout ça. Je dis simplement que c'est ce qu'on a besoin, c'est une transformation du cœur, de notre caractère, de notre façon de penser, pour que le Seigneur ait la première place. Il est nécessaire d'étudier la Bible. Moi aussi, j'étais à l'école biblique, heureusement. Autrement, ce serait dangereux. Hein. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas la connaissance, c'est la révélation du Seigneur. Vous savez, comme on a lu tout à l'heure le pasteur, Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction, mais ils avaient été reconnus comme étant allés avec Jésus. C'est ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure. Ce qui fait nos qualifications, c'est d'être avec le Seigneur. C'est d'avoir un cœur à cœur avec lui. C'est de savoir qu'il est vivant et qu'il nous écoute et qu'il prend soin de nous. Il y a tellement d'églises où Dieu est mort. Aussi bien protestant, même des fois évangélique, traditionnel, il est mort. On sert un Dieu qui est mort. Mais nous, on sait qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord vivant dans notre cœur. Il est venu nous transformer, il est venu nous changer. Et tous les jours, il attend qu'une chose, qu'on s'approche de lui, qu'on reconnaisse notre état, et qu'on lui dise, Seigneur, c'est par ta grâce uniquement. Je ne fais pas, moi, par mes forces, par mon intelligence. Je comprends rien à ton plan. Mais Seigneur, révèle-moi. Et le Seigneur nous révèle. Alors Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, fils de ton père Jonas, hein, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, un caillou, mais sur la révélation que tu viens d'avoir, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, ça, sur ce roc-là, je bâtirai mon Église. Pour ça que en grec, on insiste sur Petros, Pierre, la petite pierre, et puis Petra, le rocher, comme le rocher de Gibraltar, qui est la révélation que Christ est le Dieu vivant. Et si l'Église est fondée sur cette révélation et croit et vit tous les jours, on va voir la vie du Seigneur. C'est la clé. Il y a des églises qui ont été fondées sur pierre, ça n'a rien donné. Quand on va à Jérusalem, on va dans une petite ville, là où il y a la synagogue de... J'ai oublié du nom, sur au bord de la mer de Galilée, la synagogue de... Bon, et tout est détruit, tout est cassé. Mais sur la maison de pierre, ils ont bâti une cathédrale. Et c'est là que l'Église a commencé. Pas du tout. L'Église, elle commence dans nos cœurs. Hein? Capharnaüm. Comme disait un jour un pasteur, la ville des cafards. Non, ça n'a rien à voir avec les cafards. Hein. Capharnaüm, c'est pas la ville des cafards. C'est la ville où Jésus vivait, où il allait à la synagogue et il prêchait. Et la Bible a dit que si eux, ils ne croyaient pas à Dieu, ben, la ville ne serait jamais reconstruite. Et quand vous allez là-bas, tout est en ruine, tout est pierre sur pierre, ça n'a jamais été reconstruit. Et ça parle au cœur, parce que ce que dit la parole est vrai. Allez, on continue. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. T'as dit, je te donne l'autorité. Je te donne le ministère de l'apôtre, le ministère apostolique qui est le premier ministère qui va être celui où tu vas avoir une révélation et tu vas saisir quel est mon plan, tu vas enseigner, tu vas dire ce qui est bon, ce qui est pas bon parce que je veux t'élever et je veux t'utiliser. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre est devenu donc un des apôtres, l'apôtre Paul, pour établir les églises, pour commencer les églises, et qu'aujourd'hui, encore, moi je fais partie d'une équipe apostolique, avec des frères, avec des ministères différents, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, enseignants, et on travaille ensemble à l'unité commune de l'église. Et que l'église ne m'appartient pas, je suis pasteur de l'église de Chaville, on est trois pasteurs, l'église ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Mais on est une équipe qui travaille ensemble. Et ça m'arrive même d'être à côté et que les deux autres pasteurs me disent « Mais Jean-Louis, non, tu te trompes là. » Alors on appelle notre frère qui a un ministère apostolique, on lui demande conseil. Et figurez-vous que le fameux frère dit « Non, non, c'est les deux frères qui ont raison, Jean-Louis. Toi, tu te trompes. » Figurez-vous que ça a tellement fait une œuvre dans nos cœurs à chacun que j'ai oublié ce que c'était. Quelqu'un un jour m'a demandé « Mais qu'est-ce que c'était ton différent ?» J'ai jamais su. J'ai oublié. Moi, j'ai une capacité aussi d'oublier assez grande, donc ça m'aide beaucoup, mais c'est une grande aide. Les confrontations, les problèmes, ça devrait pas exister dans l'Église. On est une équipe, on sert le Seigneur ensemble. Et quel privilège pour nous d'être une équipe apostolique, de travailler ensemble, et je crois que vous aussi d'ailleurs, hein, et que vous travaillez ensemble pour le royaume du Seigneur. Alors, je continue. Alors, verset 20. « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Ah, Jésus, lui, il n'a pas besoin de publicité. Il voulait pas des agences de com ou tout ça. Non. Taisez-vous. Vous savez pourquoi? Parce que une fois avant, Jésus avait fait un miracle. Et vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait le faire roi. Le roi terrestre, le royaume terrestre. Jésus n'en voulait pas. Lui, son rôle est spirituel. Vous savez, quand on va en Afrique, des fois, on voit des pasteurs, ils ont constitué le royaume. Mais vraiment un royaume. D'ailleurs, ils prêchent la prospérité, mais seuls sont riches. Toute l'église est pauvre. Mais eux sont riches. Ils ont créé leur royaume. On n'est pas appelé à ça. On est appelé à créer le royaume de Dieu. À ce que chacun dans notre vie, on puisse connaître le Seigneur, on puisse être des instruments, on puisse se donner à l'Église. Vous savez, pour moi, l'Église, c'est pas un lieu où on ne fait que recevoir. C'est un lieu où on donne sa vie. Mais donner sa vie, c'est pas seulement dimanche matin, c'est tous les jours de la semaine. Notre objectif sur cette terre, c'est de construire le royaume de Dieu. Je vais partir un jour avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui restera? Il restera les âmes que j'aurai amenées au Seigneur, ce que j'aurai fait pour le Seigneur, tout ce que j'ai fait dans mon métier, dans le monde, tout ça s'est envolé depuis longtemps, fini. Mais ce qu'on fait pour le Seigneur, ça c'est éternel, et ça dure éternellement. Et la Bible nous dit qu'il faut investir dans les choses éternelles, et s'attendre au Seigneur. Alors, verset 21, écoutez ça, Jésus a parlé à ses disciples. Ah, il leur a dit, tu sais qui je suis ? Alors il a dit, oui Pierre, tu es le fils de Dieu, le fils de Dieu vivant. Il a dit, c'est bien. Et puis après Jésus dit, mais je vais leur parler un peu plus en profondeur pour qu'ils comprennent le plan, pour qu'ils comprennent ce qu'il y a devant. Alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, dans la grande ville, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième. Verset 22, Pierre l'ayant pris à part, lui dit, arrière de moi, non, se dit à le reprendre, non. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors le Pierre, qui était dans un instant, dans un mouvement de l'esprit, 5 minutes après, il est complètement dans la chair. Il dit, non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et vous savez, le plan de l'ennemi, c'était justement que Jésus ne donne pas sa vie. Parce que si Jésus n'avait pas donné sa vie, on ne serait pas là. Et le plan de Dieu, c'était qu'il donne sa vie pour nous racheter. Et déjà, dans Matthieu 4, quand il y a eu la tentation dans le désert, Satan vient lui dire, mais t'as pas besoin de donner ta vie, t'as pas besoin de mourir sur la croix. Mets-toi à genoux devant moi, je te donnerai toutes ces villes-là. Et ça, c'était le plus grand piège. Parce que Jésus n'avait pas besoin de souffrir, il savait qu'il allait souffrir. Mais il aurait pu passer au plus court. Vous savez, ça me rappelle nous. Il y a des situations où on sait que c'est pas le plan du Seigneur. Et il y a des situations dans notre vie où il faut qu'on arrête et qu'on dise, Seigneur, non, je veux pas marcher dans ce plan-là. Je veux pas marcher comme la parole a été donnée tout à l'heure de votre pasteur. Je veux pas marcher dans le compromis. Je veux pas marcher dans des choses qui sont contre le Seigneur. Mais au contraire, Seigneur, j'accepte de mourir à moi-même pour faire ton plan et ta volonté. C'est dur, mes frères et sœurs. Croyez pas que c'est facile. C'est dur, mais c'est le bon plan. C'est le petit chemin étroit. C'est le chemin que le Seigneur nous appelle à prendre. Parce que l'autre, il est le grand large. Le chemin de la perdition, nous dit la parole. Mais là, il y a un petit chemin qui se resserre. Alors, Jésus se retournant. Vous voyez, Pierre, il a appelé Jésus. Et Jésus, donc, Pierre était sûrement derrière. Il a même pas été devant pour dire à Jésus, non, non, ça ne t'arrivera pas. Il lui a dit de loin, comme ça. Mais Jésus se retournant. Moi, j'aime les petits détails de la parole. Jésus s'est retourné vers Pierre. Et lui a dit, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Ah, ça c'est clair. Combien de fois on a les pensées des hommes plutôt que la pensée de Dieu dans notre vie? Combien de fois on voudrait défendre le Seigneur humainement, charnellement, alors que c'est pas le plan du Seigneur? Alors, Jésus va lui dire quelque chose, et c'est ça que je voudrais vous laisser ce matin. Verset 24, vous savez, ces versets de la Bible n'ont pas été, depuis l'origine, ils ont été mis en place par l'imprimeur du roi, qui s'appelait, j'ai oublié le nom, et cet imprimeur a coupé la Bible un peu partout, alors que le verset 23, il suit vraiment le 24, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, c'est la même histoire. Verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut, c'était Robert Estienne qui a coupé ces versets, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà la clé d'une vie chrétienne équilibrée. Voilà ce que Dieu veut faire pour qu'on arrête d'être en haut, arrête d'être en bas, arrête d'être en haut, être en bas. Non, pour qu'on trouve la stabilité au Seigneur, devant le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors c'est quoi sa croix? Ben, moi quand je vois des jeunes viennent me voir en tant que pasteur, me disent, moi Jean-Louis, ça fait des années, j'ai toujours pas trouvé, le Seigneur m'a toujours pas donné mon conjoint ou ma conjointe. Mais ils disent, ben c'est pas un problème, c'est que le Seigneur a quelqu'un en réserve, attends. Et pour lui, c'est sa croix. Ah, il dit, tu serais tellement plus libre quand je serai marié. Puis j'ai ceux qui sont mariés qui viennent me voir en disant, oh Jean-Louis, la bêtise que j'ai faite, qu'est-ce que je peux faire Jean-Louis? Moi j'arrive pas à servir le Seigneur avec la conjointe. Non, 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 mais prends ta croix. Ton conjoint c'est ta croix. Meurs à toi-même. Grandissez ensemble. Pourquoi le Seigneur nous a donné une épouse? Pendant longtemps, moi je me suis posé la question, je voulais que ma femme elle soit jolie, qu'elle soit extraordinaire, qu'elle soit pleine zèle. Et puis, ma pauvre femme, je mettais une pression sur elle. Et puis un jour, ben, je me suis aperçu que le Seigneur nous a donné une aide semblable à nous-mêmes, mais ce qui me manque, moi, est là. Et quand je suis pas sage ou que je dépasse les limites, elle vient me dire, tu sais mon chéri, t'aurais pas dû dire ce bout-là, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû t'associer avec des gens du monde, ou t'aurais pas dû faire des choses. Elle me rappelle. Et c'est une aide extraordinaire. Et c'est vraiment, comment dirais-je, un don que le Seigneur m'a donné, un cadeau que le Seigneur m'a donné à côté de moi. Et au lieu de voir ma femme comme une croix qui me gêne, au contraire comme une croix que le Seigneur m'a donnée pour que je puisse marcher droitement dans son plan. Et combien de fois j'ai dû demander pardon à ma femme? Et elle me souvient que des fois, c'était pas facile, j'avais peut-être trop facile de demander pardon. Ma femme me disait, mais c'est trop facile pour toi. Non, 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 non. Mais quand même, dans notre cœur, le Seigneur nous a unis, et au fur et à mesure qu'on a marché ensemble, on a appris à se pardonner, à se soutenir, à s'aimer, Et au bout de 41 ans de mariage, on marche de plus en plus dans la liberté avec le Seigneur. Et ça, je veux vous dire, le plan du Seigneur, c'est que Dieu nous donne une femme qu'il a préparée pour nous. Et c'est une grâce que de marcher avec elle et de marcher avec le Seigneur. Et que c'est peut paraître des fois une croix. J'ai des frères qui viennent me dire, Jean-Louis, il faut que je divorce, c'est pas possible. Je dis, non, mon frère, attends-toi au Seigneur. On va faire confiance au Seigneur. Quelques mois après, ils me disent, oui, Jean-Louis, t'as eu raison. J'aurais fait tellement de bêtises. Et c'est vrai que le Seigneur veut nous apprendre à grandir. On a une croix, ça peut être l'école, ça peut être notre travail, ça peut être collègue de travail qui nous fait souffrir, qui nous persécute, qui se moque de nous. Mais le Seigneur dit, mais qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Si on suit Jésus à travers les épreuves, à travers les moments difficiles, il va nous aider. Parce qu'il est fidèle, lui. Parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Et il va nous aider. Et vous savez, l'aide du Seigneur, c'est une paix qu'il met dans notre cœur. C'est une joie. Seigneur, aide-moi à faire encore un mille avec lui. Aide-moi à donner davantage ma vie. Aide-moi à accepter la situation pour pas que je me rebelle, mais que je garde mon cœur dans cette situation et que je m'attende à toi. Et là, la paix de Dieu vient dans notre cœur. La joie de Dieu vient dans notre cœur. Et on s'aperçoit que il y avait des choses qu'on souhaitait pour notre vie qui nous auraient perdu loin du Seigneur. Et si le Seigneur nous a pas donné de mari ou de conjoint pour l'instant, c'est que c'est le meilleur plan qu'il a pour nous. Et que notre bonheur, il n'est pas dans le mariage. Notre bonheur, il est dans le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est un grand drame quand des célibataires me voient le mariage comme étant le grand bonheur et tout. Ça dure quelques mois. Et puis après, il y a la réalité. On dit être amoureux rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Hein? Mais c'est pour ça que j'ai des lunettes, mais ça m'a rendu la vue moi aussi. Hein? Mais je veux dire par là, que si on n'a pas de bonheur soi-même à servir le Seigneur personnellement, le mariage ce sera encore plus compliqué. Mais si on trouve notre joie à servir le Seigneur seul déjà, avec un conjoint, elle nous aidera au contraire à mieux le servir ensemble. Mais si on n'a pas trouvé notre plaisir dans le Seigneur, notre joie dans le Seigneur, notre communion avec lui dans le Seigneur, on aura beaucoup de mal dans notre mariage. Vous savez, dans l'église, j'ai plein de gens et des jeunes qui se marient. Oh, Jean-Louis, j'ai trouvé la fille la plus formidable qui soit. Il est content comme tout. Et je le vois 3 jours après le mariage. Je dis, alors ça va, c'est formidable, c'est bien. Oh, il me dit, je me suis jamais autant repenti que depuis que je suis marié en 3 jours. Il dit, c'est pas du tout ce que j'avais pensé. Mais le Seigneur est là. Et on s'attend au Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce à soi-même, à mes projets, à mes plans, à mes rêves, à mes envies. C'est des envies de la chair. Moi, je dois chercher la volonté du Seigneur. Quel est le plan que tu as, Seigneur, pour moi aujourd'hui? Que je sois ton disciple, que je sois ton témoin là où tu m'as placé, que je laisse l'autre gagner. Même s'il a tort, mais Seigneur, donne-moi un cœur pour le gagner. J'ai trop réagi en voulant avoir raison. Seigneur, je vais apprendre à perdre. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de perte dans notre chair pour accepter le plan et la volonté du Seigneur. Mais ça parle très fort. Parce qu'un chrétien qui accepte de perdre, de renoncer à lui, accepte de ne pas faire sa volonté, ça parle très fort dans l'esprit. Touche. Mais un chrétien qui se tient dans une position ferme et qui veut toujours avoir raison, ça détruit tout. Ça n'apporte rien. Alors elle dit après, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous savez, les affaires, les situations, le monde, on a connu tout ça, c'est tellement un piège, ça peut être tellement un piège. Nous, notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, ça doit être servir le Seigneur. Le monde, il n'y en aura jamais assez. Vous savez, on discute des fois où on parle de gens connus, Rockefeller, ou des gens qui ont été extrêmement riches. D'ailleurs, Rockefeller, j'ai une petite histoire. Rockefeller, il avait un chauffeur qui était un homme en pleine santé. Et lui, Rockefeller, avait déjà 65 ans. Et il avait un problème à l'estomac. Et quand il allait dans un grand restaurant, eh bien, lui, il pouvait manger une soupe seulement. Par contre, son chauffeur, il mangeait beefsteak, poulet et tout. Il mangeait des assiettes comme ça. Et lui, il pouvait rien manger. Alors, à quoi ça sert d'avoir tout l'or du monde s'il peut pas en profiter? Voilà. Alors, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. en Christ, c'est perdre sa vie pour le monde. C'est accepter de mourir à soi-même. C'est prendre sa croix tous les jours et dire, Seigneur, je veux te représenter. Vous savez, quand on voit la vie de Jésus, il aurait pu lui triompher dans le monde, il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Non, il s'est abaissé, comme le jeune homme a lu tout à l'heure, Philippiens 2. Il s'est abaissé lui-même en se rendant comme serviteur, comme un simple serviteur. Et il y a une petite phrase qui dit, le verset, il y a un petit mot qui dit, il s'est abaissé lui-même. Nous, c'est bizarre, on dirait que ce soit les gens qui nous abaissent souvent. Quand il n'y a pas une œuvre dans notre cœur, il faut que les gens nous abaissent. Mais le Seigneur lui-même, il s'est abaissé lui-même en se rendant comme serviteur pour nous. Et nous aussi, nous devons être les serviteurs. Je cherche pas à être les plus grands, mais au contraire les plus petits. Servir le Seigneur. Dans notre travail, là où nous sommes, servir le Seigneur. Tendre la main à celui qui est rejeté, à celui qui est le plus misérable. Aller le voir, lui parler du Seigneur, aller amener une tasse de thé. Mais le Seigneur fait des grandes choses. Parce que le Seigneur veut qu'on ait un cœur et ce cœur puisse se manifester. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est terrible combien j'ai vu d'hommes, de femmes courir après cet argent et devenir esclaves de cet argent. Et combien j'ai entendu de jeunes disaient, moi, quand je serai jeune, je serai ingénieur, je serai pilote d'avion et tout mon argent sera pour l'Église. Puis le jour où il est pilote d'avion, ben là, il n'y a plus beaucoup d'argent pour l'Église. Tout est pour le monde. Mais Dieu a besoin de faire un cœur. On a des confessions tellement rapides. Mais qu'on puisse avoir un cœur pour le Seigneur, voir que notre trésor, il est dans les cieux, il est auprès du Seigneur. Vous savez, pour moi, le bonheur, c'est pas d'avoir une nouvelle voiture, c'est pas d'avoir tout ça. Moi, c'est de rentrer le soir chez moi, sentir qu'il y a la paix entre moi et mon épouse, entre moi et mes enfants, de rentrer et dire, Seigneur, merci, parce que j'ai eu une super journée aujourd'hui. J'ai pu servir mes frères, j'ai pu être un témoignage auprès des gens. J'ai la paix dans mon cœur. Vous savez, moi j'ai connu des années sans paix, des années où il y avait toujours une révolte, il y avait toujours un combat en moi quand je ne connaissais pas le Seigneur. La paix que m'a donné le Seigneur, ça dépasse toute intelligence. C'est pas comme le monde donne. Et les gens du monde, ils donneraient des millions pour avoir la paix que l'on a nous-mêmes. Et comment on a cette paix? La paix et la joie du Seigneur, ça a une distance d'une prière. Il suffit de se tourner vers le Seigneur, dire « Seigneur, je déraille en ce moment, je m'énerve, j'ai mon mauvais caractère. Seigneur, je veux m'arrêter, je veux venir à toi, je veux te demander pardon. Pardonne-moi Seigneur, je veux te représenter, je veux avoir un cœur pour toi. » Et Seigneur, dans sa grâce, intervient. On a une repentance parce qu'on en a marre de se voir, on en a marre de ces réactions charnelles, de ces colères, de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et on dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Et Seigneur met la paix dans notre cœur, il met le pardon, il met la joie. Et on n'a pas beaucoup de choses, mais on a toujours ce qu'il faut, la grâce du Seigneur. Vous savez, on a eu un temps aussi avec nos enfants, on servait le Seigneur. Notre fils aîné était petit et on devait aller avec jeunesse en mission en Suisse. Et à cette époque, on n'avait vraiment pas de moyens, pas du tout. On n'avait même pas d'essence pour la voiture. On servait le Seigneur, à Orgeval d'ailleurs. Et puis... un jour, on va au culte, et à la fin du culte, quelqu'un avait mis un billet de 200 francs dans ma Bible. Je n'ai jamais su qui c'était, mais ce billet de 200 francs nous a permis d'aller jusqu'en Suisse et mettre de l'essence pour la voiture. Nous sommes arrivés là, notre enfant avait un an et demi, ou peut-être plus petit, je ne me souviens plus exactement, mais il n'y avait rien à manger pour lui. Mais là, quand on s'est arrêté au bord de la route, il y avait des pommiers, et il y avait des pommes par terre. Et ma femme dit, ben, je vais faire de la compote. Et on a fait de la compote pour les enfants, et il y a eu ce qu'il faut à manger. Après, on a continué. Quand on est arrivé à Jeunesse en Mission, il y avait une clé d'un appartement qui était préparé pour nous, pour qu'on puisse habiter chez une sœur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est d'être conduit par le Seigneur. Et à Orgeval, quand on travaillait aussi, on n'avait pas d'argent, rien. Puis un jour, on va à la poste, il y avait une enveloppe avec de l'argent liquide. C'était la seule fois. Mais ce jour-là, on avait besoin d'acheter de la viande, de la nourriture. Dieu a pourvu. Dieu est fidèle. Dieu veut nous montrer sa fidélité. Alors bien sûr, on ne vit plus comme cela, comme on a vécu comme ça. Dieu a pourvu, Dieu a envoyé des finances, sa grâce pour nous et on est reconnaissant. Mais notre cœur doit rester attaché à lui. Doit toujours attaché, être reconnaissant que c'est lui la source qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je voudrais vous encourager mes frères et sœurs. Je voudrais prier avec vous, m'attendre à la grâce de Dieu pour les besoins que vous avez ou les situations par lesquelles vous passez. Mais je vais vous dire, choisissez le Seigneur. vous ne serez jamais déçu. Si vous prenez le monde, si vous prenez des petits chemins larges, vous allez vous perdre, comme avait dit cette parole du pasteur tout à l'heure, mais acceptez son plan, laissez son plan venir dans votre vie, c'est étroit, c'est difficile, mais sa grâce est là. Et il est fidèle pour prendre soin de chacun. Alors, si vous voulez rester assis ou on va se lever, si on peut se lever, on va prier pour chacun d'entre vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous parles ce matin à chacun d'entre nous à travers ces histoires, à travers ces témoignages de ta grâce, de ta fidélité, à travers ta parole, à travers la parole prophétique que le pasteur a donnée. Seigneur, tu nous appelles ce matin à entendre ta voix et à la mettre en pratique dans notre vie. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux qui se regardent dans un miroir et qui oublient comment ils étaient. Non, Seigneur, nous voulons reconnaître nos faiblesses, nos manquements, et te dire peut-être cette semaine, j'ai raté, je suis passé à côté, j'aurais dû prendre ce chemin étroit, j'aurais dû renoncer à moi-même, mais je l'ai pas fait. Alors Seigneur, aujourd'hui je me repens, je te demande pardon, je veux reprendre ton chemin. Parce que je ne suis bien que quand je me repens, que quand je suis à ton écoute, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de choses entre moi et toi, et que je sois libre pour marcher avec toi. Tu as parlé à nos cœurs ce matin, Seigneur. Tu veux que nous ayons la repentance dans notre cœur, l'humilité de reconnaître que des fois on passe à côté. Mais aujourd'hui, ta grâce est là. Tu ne nous accuses pas, mais tu nous pardonnes. Tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ce matin, nous nous sentons bien petits devant toi. Mais nous te demandons, Seigneur, ton pardon, ta grâce. Parle à chacun des cœurs, Seigneur. Donne-nous de nous humilier, de nous repentir et te demander pardon. Et quand nous faisons ça, Seigneur, tu nous délivres, tu nous rends libres, tu agis dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, que ce soit ce matin ou que ce soit chez eux dans leur chambre, qu'ils puissent passer un moment précieux, profond avec toi, où ils puissent être vrais, te dire les choses. Et Seigneur, tu vas les restaurer, tu vas les pardonner, tu vas les relever. Et ensemble, on pourra te servir de plus en plus pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Amen. Alléluia. Amen.